et que nous soyons ensemble réunis autour de la parole du Seigneur et autour de sa présence, de sa personne, pour partager une réflexion sur la Bible, bien sûr sur sa parole. Par quelle autorité fais-tu cela ? Alors nous venons de lire un texte qui est très intéressant, hein, et qui se termine sur, en tout cas je relèverai cette réponse des pharisiens, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Ah, ces pharisiens. Jamais rassasiés. Si vous avez lu, ou je vous invite à le faire, lire les évangiles, vous verrez qu'il y a plusieurs rencontres entre Jésus et les pharisiens. Et là, je dirais, encore une fois, dans cet exemple, ils sont toujours aussi teigneux, à l'affût de la moindre occasion, hein, et aussi sur la défensive. Et au-delà de ça, j'aime l'humour de Jésus. J'aime sa répartie. J'aime son sens de la rhétorique. J'aime sa subtilité à renverser les situations et à placer son ou ses interlocuteurs devant ses responsabilités. Vous savez que j'aime beaucoup les histoires. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un éléphant et d'un moustique. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Mais ma foi, hein, ça a son petit enseignement. C'est un moustique qui vient rencontrer un éléphant et il lui annonce, je vais te piquer jusqu'à plus soif, car je suis beaucoup plus rapide que toi à me déplacer et surtout, j'ai une arme redoutable, mon dard. Vous savez que le moustique se sert de son dard pour pomper du sang. Mais il se heurte à un obstacle de taille. C'est l'épaisseur de la peau de l'éléphant. Sa protection, son armure, son bouclier. Et là, le moustique a beau insister, il se casse le dard. Il retourne dans sa tribu, qui s'appellent les pharisiens féroces. Et là, il faut réfléchir. Il faut trouver une astuce. Il faut trouver une idée. Il faut trouver une ruse. Il faut surtout tendre un piège pour ne pas perdre la face envers les autres tribus. Alors, ils reviennent en force, unis dans l'action et la provocation. Alors, ils réessayent en groupe. L'union fait la force. Mais rien n'y fait. L'éléphant ne cède pas à la meute, les pharisiens féroces, qui se cassent le dard et repartent bredouilles, en échec, honteux, sans avoir tiré la leçon qu'il faut plus que de la provocation, du nombre, pour prétendre à la victoire. Alors, vous avez bien compris que c'était une illustration un petit peu de ce qui se passe. Ils sont là comme une meute aux abois, tournant autour de Jésus, en disant, mais on va le piquer à vif et on va l'avoir. Ça m'a fait penser aussi à une autre situation que Jésus rencontre, c'est avec la femme adultère. Souvenez-vous de cette histoire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, la troupe féroce, amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, dirent à Jésus, « Maître !» Intelligent le pharisien, « Maître !» Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu ? Et là, on relève dans le texte cette phrase, ou ce mot, ce verbe. Il disait cela pour l'éprouver. afin de pouvoir l'accuser. Ce n'est pas pour avoir une réponse, ni une explication, ni une position. Là n'est pas leur intention. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Alors, j'imagine que ça a dû les énerver. Hein. Comme ils continuaient à l'interroger, hein, voilà, les pharisiens féroces hein, qui tournent autour, qui veulent piquer. Et Jésus se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il continua à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Je pense que la pauvre, elle devait trembler de tout son corps. Elle s'attendait à être lapidée. Elle s'attendait à mourir. Alors Jésus s'étant relevé, donc Jésus n'avait pas participé à la scène directement. Il était resté assis en train de dessiner sur le sol. Et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Très intéressante cette histoire. J'aime l'humour de Jésus. J'aime sa façon de répondre aux situations. J'aime sa façon de répondre aux accusations, aux pièges tendus. Je crois que moi le premier, je tomberais dans le piège en essayant de trouver une explication, peut-être m'enlisant dans les explications. Autre défi, autre histoire, autre lieu, mais avec les mêmes moustiques. Notre fil conducteur. Le moustique. Les pharisiens ne manquent pas d'idées. Ils ne manquent pas de ressources. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme à la main sèche, ou à la main inanimée, on va dire, inerte. Dans Matthieu 12, Jésus entra dans la synagogue. Il n'est pas entré dans une pharmacie, hein. Il entre dans une synagogue, dans un temple. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche, un infirme. Et alors là, la troupe de nos moustiques féroces demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat, jours de repos, jours de rien faire ?» comme on considère le dimanche. Et là, encore une fois, on retrouve cette phrase et ce mot, ce verbe, c'était afin de pouvoir l'accuser. Pas pour avoir une explication. Pas pour avoir un éclaircissement. Pas pour rechercher une vérité. Et là, Jésus leur répondit, « Ah, j'aime l'humour de Jésus, c'est assez incroyable. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse un jour de sabbat, n'ira pas pour la retirer ?» Une brebis, pour un berger, c'est source de revenus, source de nourriture pour lui, pour sa famille, c'est sa subsistance. Donc Jésus dit, ben voilà, si ta brebis, celle que tu as, va tomber, même si t'en reste plein d'autres, elle tombe, est-ce que tu vas la laisser mourir ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Eh oui. Il est donc permis, et là, Jésus, après cette image, leur donne une réponse claire. Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. Là, Jésus a été clair. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et j'imagine qu'il devait être tremblant aussi, le bonhomme, parce qu'il se disait, mais bon, c'est le jour de sabbat, on est dans une synagogue, il y a les chefs religieux, normalement c'est juste la prière le sabbat, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et il obéit, il étendit sa main et elle devint saine comme l'autre. Alors les pharisiens sortirent, hein, notre bande de moustiques, hop, elles s'envolent, et là ils se consultèrent, hein, les moustiques féroces, sur les moyens de faire périr Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué une petite chose, c'est que quand j'écrivais cette prédication, je me dis, mais là on a quand même un crescendo dans ces histoires. Au début, il pose des questions pour l'éprouver, il teste. Après, c'est pour l'accuser. Donc là, c'est procès. Hein? Et là, maintenant, c'est de le faire périr. Ils doivent être grave énervés, les pharisiens. Ils doivent être très énervés. Ils ont l'impression que Jésus les a roulés dans la poussière. Donc là, ils se réunissent pour savoir quel moyen utiliser pour réussir à piquer Jésus. Mais il n'y a pas que les pharisiens qui ont essayé, il y a eu plus costaud, si vous me permettez l'expression. C'est Satan. Satan s'est essayé aussi à tenter Jésus quand Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours. C'est long, 40 jours. C'est pas 4 heures, même si c'était 40 heures, c'est 40 jours. Satan a fait plusieurs tentatives pour déstabiliser Jésus, pour le forcer à utiliser ses pouvoirs divins, pour montrer sa supériorité. Pour dire, ah, tu vois en fait, tu vois, t'as un pouvoir, tu l'utilises. Mais pas de la bonne manière. Et pourtant, nous pharisiens de la première heure, ils connaissaient bien la réponse à la question, à cette question-là. La question sur l'autorité de Dieu. Elle était évidente, mais ils refusaient son explication et leur implication. Ils ne veulent pas avouer de peur de perdre leur propre autorité. Ils veulent continuer à contrôler le peuple, à contrôler ses décisions et surtout à garder le pouvoir. Pour ça qu'au début, ils pensent qu'ils allaient être victorieux, les moustiques féroces, qu'ils vont réussir à piquer Jésus, à le mettre à genoux, à l'affaiblir et à garder leur pouvoir. Et ça marche pas une fois, deux fois, trois fois. Alors après, ils cherchent à l'accuser, à trouver un autre stratagème, une autre histoire. Ça marche pas. Et ils essayent encore de, comme Satan, de se baser sur la parole de Dieu. Oui, Satan dit, dans la Bible, il est dit que ton pied n'heurtera pas une pierre si tu te jettes du haut du temple. Donc ils ont essayé aussi, les pharisiens, en utilisant la Bible. Oui, au fait, Moïse, dans sa loi, la loi vient de qui ? Moïse, elle vient de Dieu. Donc, Dieu a dit que, et Jésus dit non, vous avez obligation de faire le bien tous les jours. Ah, je peux pas, là, je vais à l'église. Ou là, je peux pas parce que j'ai autre chose à faire. Ça me fait penser au bon samaritain. Alors, par quelle autorité Jésus fait et dit tout cela? Jésus venait juste de chasser, hein, juste quelques versets avant, Oh, il passe dans un temple, qu'est-ce qui se passe? C'est la foire, c'est une brocante, c'est le marché. C'est comme si ici il y avait des stands, hein. On vendait, on achetait, il y aurait des bouchers, des marchands, j'allais dire des légumiers, des marchands de légumes, tout le monde, voilà, dans l'église. Et Jésus a chassé tout le monde, il a renversé les établis, il a mis tout le monde dehors. Dans l'histoire du peuple d'Israël, de nombreux prophètes ont annoncé le message de Dieu par énormément de signes. J'avais juste l'image de Jéricho, hein, quand le peuple d'Israël tourne autour de la ville de Jéricho et sans porter un seul coup d'arme, les murailles s'écroulent au son de la trompette. Comment est-ce possible? Dieu l'a rendu possible. Alors Jésus était-il aussi un prophète? Et tout ce qu'il fait, qui pourrait paraître choquant, serait un message de la part de Dieu? Est-il vraiment l'envoyé de Dieu? Quel est le message, son message? Quelle est la prophétie? Quel est le sens de toutes ces guérisons, de tous ces miracles, de tous ces gestes incompréhensibles? Il laisse partir la femme adultère. Fallait-il croire en Jésus? Les chefs des prêtres, notre fameuse troupe, demandent une confirmation claire, nette et précise. Tu parles une confirmation. Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? Une confirmation. Eux qui étaient censés connaître les Écritures. Dans ce texte-là, nous avons deux personnages, quand on le relit, qui sont mis en balance. On parle surtout de Jean-Baptiste et de Jésus. Ça n'a rien à voir que ça commence par un J, hein. Mais on a Jean-Baptiste et Jésus. Concernant le Jean-Baptiste, il est dit, il n'y a pas de doute, c'était un prophète. Donc là, c'est indiscutable. En vivant dans le désert, en prêchant avec passion, en baptisant, il avait annoncé l'urgence de se convertir, de changer de vie, car il a dit, moi, je suis indigne de lacer les sandales de celui qui va venir. Il annonce la venue de Jésus. Le Messie arrivait. La réponse des Juifs. Nous ne savons pas, chers pharisiens. Les chefs des prêtres ne suivirent pas Jean-Baptiste non plus. Ils ne se convertirent pas. Ils estimaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient au-dessus de cela. Et pourtant, ils savaient, ils reconnaissaient que Jean-Baptiste était bien l'envoyé de Dieu. Même Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jésus a appliqué ce qu'il était venu annoncer, le baptême. Concernant Jésus, la situation est la même. Leurs cœurs ne sont pas prêts, ne sont pas ouverts à accueillir l'Évangile. Même si Jésus leur déclarait ouvertement être l'envoyé du Père, est-ce qu'il l'aurait cru? Non, d'ailleurs, je pense qu'ils en auraient profité pour le jeter en prison, plus rapidement, comme blasphémateur. Donc, ils n'auraient pas cru. Jésus le sait. De toute façon, Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Combien de fois Jésus a dit, « Oui, je connais la pensée de votre cœur. Je sais ce que tu vas me répondre avant que tu parles. » Voilà pourquoi il ne leur répond pas à Jésus. Il ne répond pas d'où vient son autorité. Il leur fait voir quand même combien leur attitude est fermée à la loi, à la parole de Dieu. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. C'est facile à répondre. Je ne sais pas. Comme ça, je ne sais pas. Mais cette réponse est encore aujourd'hui celle de l'agnostique, ou du chrétien tiède, non pratiquant, qui ne remet pas sa vie en cause, qui n'est pas disposé à changer sa vie, et à suivre la radicalité de l'Évangile. Ils préfèrent fermer les yeux sur le Christ, à la politique de l'autruche, comme on dit, sur le règne, sur l'Évangile. Je ne sais pas. Comment tu sais que Dieu existe? Je ne sais pas. Quel est le message qu'annonce Jésus, si son autorité vient de Dieu? Jésus lui-même répond dans Marc 11, verset 15, « Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Jésus, par sa vie, est venu annoncer l'arrivée du règne de Dieu parmi les hommes. Jésus, il n'est pas venu faire un défilé pendant les trois années où l'on parle dans les évangiles, entre 30 et 33 ans. Il n'est pas venu se promener, il allait visiter la province, il faisait un pèlerinage, globe-trotteur, pas globe, mais local. Oui, bonjour, je m'appelle Jésus, je vais te passer. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Jésus est venu annoncer l'évangile. Il est venu annoncer l'arrivée du règne de Dieu parmi les hommes. Un règne qui vaincra le péché, qui libérera les hommes de l'enfer. Un règne d'amour et de justice qui fera des chrétiens. Un seul cœur et une seule âme pour les chrétiens. Acte 4, verset 32. Un règne dont Jésus sera roi et que toutes les créatures serviront avec amour. Dans Jean, chapitre 13, verset 13, « Vous m'appellerez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. » Il y a des paroles de Jésus qui passent inaperçues face à ce genre de personnes qui préfèrent répondre « Je ne sais pas. » Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Le règne de l'indécis. Ou le règne de celui qui refuse la réalité, la vérité. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ? Et en fait, dans cette question sous-entend, quand même quelque part, qu'il pourrait y avoir deux sources d'autorité. Les religieux savaient que l'autorité que manifestait Jésus pouvait provenir soit de Dieu, soit du diable. Comme ils refusaient d'admettre que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu, en posant cette question, ils laissaient entendre qu'ils pensaient que l'autorité de Jésus provenait du diable. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait dire cela ? À plusieurs reprises, ils l'ont déclaré ouvertement. Dans Matthieu chapitre 9, verset 34, qu'est-ce qu'il est écrit ? Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Cette phrase est écrite. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne clairement que la source première de l'autorité, c'est Dieu lui-même. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Parce que l'autorité vient de Dieu, Dieu a voulu, avant même la fin du monde, que dans l'univers, tout fonctionne et s'articule sous ce couvert du principe de l'autorité. Dieu est l'instigateur du principe de l'autorité. Voilà pourquoi il est dit que toute autorité vient de Dieu. Et cependant, la Bible nous enseigne que l'une des créatures célestes des plus puissantes de son temps, avant sa déchéance, c'était Lucifer, ange de lumière, qui s'est rebellé contre Dieu, et par sa rébellion a altéré ce principe de l'autorité. Le diable n'a pas supprimé ce que Dieu a établi, parce que lui aussi c'est un moustique féroce. Mais il a introduit dans le principe de l'autorité une pratique illégale, illégitime de l'autorité. Ainsi, même si, dans son principe, toute autorité vient de Dieu, cela ne signifie pas que toute autorité soit juste ou légale ou légitime. On peut même dire que la plupart des formes d'autorité qui existent dans le monde portent la marque, plus ou moins forte, de cette altération diabolique. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 25, il est rapporté cette parole de Jésus, « Les princes des nations les tyrannisent. » Il y a aussi une autorité dans cette phrase. Malheureusement, nous voyons aussi, et nous avons vu, nous avons constaté, participé, subi, comment certains systèmes religieux ont mis en place des formes d'autorité déviées, pyramidales, dominatrices, manipulatrices et contraignantes, qui sont à l'origine de tout un tas d'aberrations, les excommunications, la guerre des religions, les croisades, les persécutions, les inquisitions, etc. Et pourtant, Jésus est Seigneur. Il a autorité comme le Père. Il règne sur la vie comme sur la mort. Romains, chapitre 14, verset 9. En effet, Christ est mort sur la croix, mais il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Celui qui nous jugera. Il a tout pouvoir sur la terre comme dans le ciel. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, toute autorité. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Selon que tu lui as donné pouvoir, autorité, sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus a autorité pour sauver les hommes. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il a autorité pour sauver les hommes. Il est le serviteur de Dieu en exerçant le ministère de prophète, de prêtre et de roi auprès des hommes. Il a enseigné le royaume de Dieu avec autorité. Il opérait des miracles. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Dans Matthieu chapitre 9, verset 6-8, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, marche, va dans ta maison. » Et le paralytique se lève, prend son lit et rentre chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et dans Marc, chapitre 1, versets 25 et à 27, Jésus le menaça l'esprit en disant « Tais-toi et sors de cet homme !» Et l'esprit impur sortit de l'homme, en l'agitant avec violence, peu importe, en poussant des cris, peu importe, mais il est sorti. Tous furent saisis de stupéfaction, tu m'étonnes, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité aux esprits, même aux esprits impurs, et les esprits impurs lui obéissent. Abréger un tout petit peu. Et puis, alors les disciples, voilà. Donc j'aurai encore quelques petites citations, mais... Les disciples de Jésus ont vécu une situation similaire. Dans Actes chapitre 4, si vous lisez bien, les disciples furent placés au milieu de les moustiques féroces qui voulaient les piquer. Et ils leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ? Parce qu'il faisait des miracles. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël. » Il reconnaît leur statut. « Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, ce n'est pas des malfrats, sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. » C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il a été complètement guéri. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Trois étoiles, trois grosses étoiles. Notons la très grosse différence entre ces deux situations. C'est dans la reconnaissance de l'autorité, de la puissance et du pouvoir. Les disciples le font au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Jésus le fait en son nom. Va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Va, rentre chez toi. Va te laver. Je te dis, lève-toi et marche. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus le fait en son nom. La réflexion du jour n'a pas pour objet de jeter le doute, ni le trouble, le discrédit sur les différentes formes d'autorité, mais pour nous amener à une réflexion, à une interrogation plus personnelle. J'aimerais bien terminer là-dessus. Quelle autorité dirige ma vie ? Voilà. Quelle forme d'autorité émane de moi ? Si l'autorité qui me dirige et que j'exerce vient de Dieu, amen, elle va être source de vie, de bénédiction, d'édification, de paix et d'amour tout autour de moi. Sinon, c'est le contraire qui arrive. L'autorité de Jésus libérait les captifs, renvoyait libres les opprimés, délivrait les possédés. Elle était source de vie. C'est cette forme d'autorité que nous voulons pour notre propre vie, que je veux pour ma propre vie. Et que nous voulons manifester autour de nous. Seul Dieu en est la source. Et nous, chrétiens, nous qui sommes là, qui avons basé notre foi en Christ, personne, ni aucune autre autorité, ni aucune puissance ne peut nous détourner de la volonté de Dieu pour notre vie. Seul Dieu a autorité sur notre vie. Rien et personne d'autre. Je vais volontairement ouvrir une parenthèse. Excusez-moi, j'ai accéléré un petit peu, mais comme ça, vous pourrez réécouter hein, si besoin. Et je vous encourage à le même réécouter en entier. J'ouvre une parenthèse que je ne fermerai pas, je la laisse ouverte. Quel est le moteur, la motivation, l'essence de l'autorité de nos politiciens, de nos employeurs, de nos responsables, de nos parents et de nous, chrétiens, membres d'Église ? Sur qui ou sur quoi se base-t-il, nous basons-nous pour construire une vie, pour la transmettre ? Pour bâtir un avenir, pour bâtir un bâtiment, pour encadrer des collaborateurs si nous sommes responsables, pour développer des compétences. D'où vient l'autorité ? Pourquoi fait-on cela ? Pourquoi font-ils cela ? Nous pourrions imaginer cette prière. Je conclurai là-dessus. Ô Jésus, mon roi, je veux te reconnaître aujourd'hui comme mon sauveur et maître. Tu viens de Dieu, tu es Dieu, je le crois. Tu es le premier servi. Donne-moi la foi, donne-moi une foi solide. qui aient le courage de croire à toutes ces paroles, à toutes tes paroles. Éloigne de moi la tentation d'une vie tranquille, à l'écart de ton amour ou qui me garderait suffisamment éloigné de toi. Jésus, viens régner dans ma vie. Sois mon autorité. Que ce soit pour toi que je vive et que je meure. Voilà. Nous sommes partis de cette accusation, on va dire, des moustiques pharisiens féroces pour garder l'autorité ont accusé Jésus. Mais nous, posons-nous la question, quelle est l'autorité qui dirige ma vie, qui règne sur ma vie? Et ce que je fais, pourquoi et pour qui je le fais? Surtout pour qui je le fais? Est-ce que je le fais au nom de Jésus? Dans le nom de Jésus? Sous le couvert de son approbation? Ou je le fais dans le but de rechercher ou de trouver autre chose? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.